les chroniques Road Movies Ophic du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way 304 for more.
Et sur radiogrenouille.com.
L'année dernière, j'avais consacré un certain nombre de chroniques westernosophiques à la métamorphose de l'image de l'Indien dans le western. Hein, l'Indien qui, selon les périodes, pouvait être diabolisé, idéalisé, puis rediabolisé, etc. Et ce qui est assez remarquable, c'est à l'inverse la rareté des Indiens dans le road movie. On aurait pu penser le contraire, en fait. Hein, de manière théorique, on aurait pu imaginer le contraire dans la mesure où, justement, dans les années 60, 70, 80, c'est-à-dire les années où le road movie va devenir un genre en tant que tel, eh bien la contestation du modèle blanc, du modèle WASP, etc., va marquer beaucoup de westerns dits révisionnistes, hein, qui vont justement réhabiliter l'image de l'Indien dont j'avais parlé dans les chroniques. À cet égard, Benoliel et Toré écrivent dans leur livre titré Road Movie USA, « Le rêve secret du road movie, genre rebelle, et de ressembler à l'Indien. » Fin de citation. Alors peut-être que c'est le rêve secret, c'est de ressembler à l'Indien, mais encore une fois, l'Indien est très rare dans les films de route. Dans Easy Rider, par exemple, film emblématique, eh bien l'Indien n'apparaît pas, ou alors il apparaît en creux. D'abord, il apparaît comme le modèle mythique de la communauté hippie que croisent les personnages du film, et puis il apparaît peut-être vraiment en creux au sens strict, c'est-à-dire tous les espaces vides qui sont filmés au bord de la route, ben les espaces vides, on le sait, c'est aussi les espaces qui ont été vidés de la présence des Indiens par le génocide. Et je voudrais donc aujourd'hui m'attarder sur un film de route, un road movie qui présente la particularité d'être justement un des très rares films qui est à la fois interprété, produit et réalisé par des Amérindiens. Alors c'est un film de Chris Eyre de 1998 qui s'appelle Smoke Signals, signaux de fumée, et qui a été traduit en français par Phoenix Arizona, sur un scénario de Sherman Alexie, j'y reviendrai à la fin de cette chronique. Alors ce film n'est pas un film majeur, mais c'est un film je crois qui mérite d'être découvert, notamment, je le disais, à cause de cette originalité qui en fait un des rares films finalement 100% amérindien.
Good morning. This is Randy Pion on KRES Radio, the voice of the Coeur d'Alene Indian Reservation. And it's time for the morning traffic report on this rainy bicycle.
Alors c'est un film, d'abord, signalons, donc c'est un film récent, c'est un film tardif, et donc c'est un film qui véhicule aussi des fragments multiples empruntés à d'autres films, hein, puisque le film est de 1998. On sait que le cinéma est un art particulièrement autoréférentiel. Stanley Cavell, le philosophe américain, grand philosophe du cinéma, explique cette autoréférentialité du cinéma, notamment par le fait que ceux qui participent à un film ont toujours participé à d'autres films, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, dans la peinture ou dans d'autres arts. Et donc, le fait que les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les directeurs de la photo, etc., participent à un film et ont participé à d'autres films avant et participeront à d'autres films après, créent des liens entre les films. Ici, par exemple, un des personnages centraux du film est interprété par Gary Farmer. Or, Gary Farmer, 3 ans plus tôt, c'est lui qui joue Nobody, personne, dans le fameux Dead Man de Jarmusch. Et donc, le fait qu'il ait interprété ce rôle juste avant, hein, 3 ans avant, crée d'étranges harmoniques dans Smoke Signals, dans Phoenix, Arizona. Par exemple, à un moment, Arnold Joseph, donc le personnage interprété par Gary Farmer, demande à Victor, son fils, qui est son Indien préféré, et son fils dit « Nobody, nobody, nobody ». Alors là, il y a 2 manières de comprendre cette réponse. Est-ce qu'il veut dire qu'il n'a pas d'Indien préféré? Son Indien préféré, c'est personne, il n'y en a pas. Ou bien est-ce que son Indien préféré, c'est Nobody, c'est-à-dire le personnage du film de Jim Jarmusch? Bon, les deux lectures sont possibles, surtout si on connaît Deadman, évidemment. Si on ne connaît pas l'existence du film de Jarmusch, on ne peut pas voir la complexité de la scène. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que le film nous guide vers l'interfilmicité. Hein. Il nous guide vers cette dimension référentielle. Par exemple, à un moment, Victor, un des deux personnages principaux du film, un des deux adolescents qui sont des personnages principaux, se moque de Thomas, de l'autre ado dans le bus, et lui dit « Tu parles comme un sorcier. Combien de fois as-tu vu Danser avec les loups ? 100 fois, 200 fois ?» Voilà, il se moque de lui parce qu'il passe son temps à regarder Danser avec les loups, qui est justement un des westerns dont je parlais tout à l'heure, un des westerns révisionnistes qui a tenté de réhabiliter l'image de l'Indien. Alors, finalement, le film est construit aussi sur cette idée, assez intéressante d'un point de vue cinématographique, que les Indiens d'aujourd'hui construisent leurs identités à partir de l'image que les films de blanc ont donné des Indiens. Vous voyez, il y aura une sorte de retour, finalement, d'un aller-retour entre la réalité et le cinéma. Le cinéma se serait emparé des mythes de l'Ouest, de l'Indien, etc. Et puis aujourd'hui, les Indiens contemporains bâtiraient leur identité d'après l'image que les Blancs ont donné d'eux dans les westerns, notamment les westerns classiques. Donc l'image, on le sait, dans le western, c'est souvent autour de poncifs, d'amalgames, de simplifications. À un moment, il y a un dialogue savoureux entre Victor et Thomas. Victor disant à Thomas, mais tu dois avoir l'air d'un chasseur de bisons, tu dois faire peur, tu dois avoir l'air d'un chasseur de bisons. Et puis l'autre lui dit, mais nous venons d'un peuple de pêcheurs, je ne peux pas avoir l'air d'un chasseur de bisons. Et il lui fait d'ailleurs remarquer que Danse avec les saumons, ça sonnerait beaucoup moins bien que Danse avec les loups. Et le charme du film, justement, va tenir à ce mélange d'humour et à la fois d'une profonde mélancolie, puisque ce que montre le film, c'est que finalement, le monde amérindien a définitivement disparu. Même s'il reste des survivants amérindiens, le monde lui-même, l'univers amérindien, a malheureusement disparu et il est impossible de le faire revivre. D'ailleurs, à cet égard, il y a un usage assez subtil de la musique qui est fait dans le film, puisque de temps en temps, on entend vaguement des chants indiens qui tentent de se faire entendre, mais en fait, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne vient jamais vraiment au premier plan, et on a l'impression aussi que la musique essaie d'assumer cet héritage indien, mais que ça, c'est fini, c'est pas possible. Et cette musique d'ailleurs donne une certaine profondeur temporelle au film, puisque un film qui est lui-même d'ailleurs construit sur une imbrication de différents flashbacks, et aussi une mise en perspective, donc je le disais, avec les modes de vie traditionnels des Amérindiens. En fait, finalement, dans le film, il y a un mélange assez intéressant d'un côté de choses très prosaïques et puis de choses mythiques, d'une certaine manière. On sait que le mélange du prosaïque et du mythique, c'est quelque chose qui est important dans les westerns, notamment dans les westerns de Ford. Alors ici, ça se fait sur un mode beaucoup plus désenchanté, bien sûr, que chez Ford. Alors le prosaïque, qu'est-ce que c'est ? Le prosaïque, c'est la vie dans la réserve. La vie dans la réserve qui est très triste, en fait. C'est l'alcool, c'est la violence conjugale. Et puis, comme je le disais, c'est aussi l'Indien qui est parfois réduit à des codes vestimentaires qui peuvent inspirer les hippies ou qui peuvent inspirer la mode. Il y a d'ailleurs une séquence assez drôle dans le film à propos d'une couverture de Time Magazine. Et puis les mythes, c'est l'ancienne culture amérindienne, et c'est notamment la force symbolique des éléments, avec le feu, avec l'eau. Dans le film, comme ça, il y a plusieurs moments qui jouent avec cette force, mais aussi de manière un petit peu dérisoire. On sent que là encore, la force magique des éléments, eh bien, elle en a pris un sacré coup avec la conquête de l'Ouest, et puis aussi le cinéma américain et le western. Et ce film, donc, qui est plein de charme, on y retrouve ce qui fait la valeur aussi d'un livre, justement de Sherman Alexie. Sherman Alexie, je le disais, c'est le scénariste du film. Et Sherman Alexie, il a écrit un livre qui s'appelle « Le premier qui pleure a perdu », qui est une pseudo-autobiographie. Et je conseille vraiment vivement aux auditeurs de lire ce livre. Et notamment, c'est un très beau cadeau à faire, je crois, à des adolescents ou à des enfants. Je sais en tout cas que ce livre, donc, il raconte avec beaucoup à la fois d'humour et de mélancolie la vie d'un Indien dans une réserve d'aujourd'hui. C'est un des livres qu'on a partagé ensemble avec mes filles. Je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, elle aussi, donc je vous conseille vivement de le lire et éventuellement de l'offrir à des adolescents autour de vous.
Les chroniques Road Movies Ophic du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Surveys are only free all for the war.
Et sur radiogrenouille.com.